Amis, bonjour. Vous êtes à l'écoute d'un programme de méditation biblique présenté par Jacques Marchal. Les membres de l'Église de Christ de Jérusalem étaient zélés, car nous dit la Bible, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. La parole de Dieu leur était donc enseignée chaque jour. Si aujourd'hui le Nouveau Testament et le Nouveau Testament seul étaient enseignés chaque jour, les personnes religieuses seraient bien plus élevées pour le Seigneur qu'elles ne le sont. Elles seraient enthousiasmées par la volonté de Dieu et fermement décidées à l'accomplir, changeant ainsi leur vie tout entière. Les chrétiens de Jérusalem étaient heureux. L'Écriture dit qu'ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ceux qui font la volonté de Dieu sont nécessairement joyeux, car une conscience nette engendre un esprit exempt de tracas et d'anxiété. Les besoins tant physiques que spirituels leur étaient fournis d'office en cas de besoin urgent. À celui qui cherche d'abord à remplir ses nécessités spirituelles, Dieu subvient à ses besoins physiques. Et la preuve en est que les persécutions n'empêchèrent nullement l'Église de croître en nombre et en esprit, bien au contraire. Cela catalysa et intensifia leur zèle évangélique. Lorsque ces terribles épreuves dispersa l'Église du Seigneur de Jérusalem, et la parole fut prêchée partout où passait un simple chrétien. L'Église avait déjà 3000 membres le jour où elle fut fondée. Mais moins d'une semaine plus tard, ce nombre s'accrut jusqu'à 5000. En seulement quelques semaines de temps, plusieurs autres milliers d'hommes et de femmes se donnèrent à Christ. Durant une période d'environ 35 ans, l'Évangile avait été prêché à l'entièreté du monde connu de l'époque. Prêché à chaque créature vivant sous le ciel de Dieu. On pourrait se demander la raison de cette croissance extraordinaire du nombre des disciples du Fils de Dieu. Il existe une réponse toute simple, toute logique. Ceux de l'Église étaient chaque jour tous ensemble, et la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme, nous disent les Écritures. Il régnait donc une unité absolue quant au but à atteindre parmi ces chrétiens. La Bible, comme nous venons de le voir, dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. C'est précisément pour cela que Jésus est mort sur la croix. Pour que tout le monde puisse être vraiment uni en matière de religion. Ceux qui vivaient à l'époque des apôtres désiraient ne faire ni plus ni moins que ce Christ avait ordonné. Qu'ils fassent spirituellement parlant tout ce qu'il avait dit. Ceci était spécialement vrai en ce qui concerne cette église de Jérusalem. On comprend dès lors pourquoi l'Église de Jésus-Christ était acquise par son propre sang, grandissait avec tant de rapidité à ses débuts. Cette même Église résolvait elle-même ses propres problèmes ou ses difficultés. Ananias et Saphira furent punis de mort pour avoir menti au Saint-Esprit. L'Église marchait sans cesse vers un but défini, l'unité. Le problème du ministère journalier fut également résolu à la satisfaction de tous, et chacun put aller de l'avant. En sauvant des âmes. Une autre question délicate se présentait, celle de la circoncision. Sa solution n'engendra aucune division parmi les membres. La question des préjudices raciaux et religieux s'arrangèrent selon la volonté de Dieu et l'unité existait toujours, se renforçant même. Ne pourrions-nous pas réaliser les mêmes choses aujourd'hui? Serait-ce si difficile que cela? Non, n'est-ce pas? Les Écritures enseignent que le seul baptême exigé des croyants est le baptême d'eau. Lorsque Philippe prêcha la bonne nouvelle du Sauveur à l'Eunuque, il nous a dit que, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'Eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'Eunuque répondit, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char, Philippe et l'Eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa. En Actes chapitre 10, verset 48, Pierre, lorsqu'il prêchait l'évangile à Cornée aux siens, ordonna qu'il fût baptisé au nom du Seigneur, nous dit la parole. Ce baptême exige beaucoup d'eau. En Jean chapitre 3, verset 23, il nous est par exemple dit que Jean aussi baptisa à Énon près de Saline, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Il faut donc descendre dans l'eau, comme le fit par exemple Philippe et l'Eunuque. N'est-il pas dit par ailleurs que dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau? Ce baptême avait eu lieu dans le Jourdain. Et le fait de sortir de l'eau montre bien que Là, l'idée était assez profonde à cet endroit. Tout ceci est répété, on en parlera de multiples occasions, indique que le baptême par immersion est bien un ensevelissement. L'apôtre Paul, en s'adressant aux chrétiens de Rome, insiste même sur ce point lorsqu'il dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions dans la nouveauté de vie. On est non seulement enseveli dans l'eau du baptême, mais de plus on ressuscite dans une vie entièrement différente, une vie nouvelle, débarrassée, lavée des péchés passés. Il ne s'agit pas seulement d'aller vers l'eau, mais bien d'y être immergé totalement. En bref, il s'agit d'une immersion ou de l'ensevelissement d'un être ancien tant qu'on est sous l'eau, ou d'une émergence soudaine dans une existence qui doit être considérée comme spirituelle, de matérielle qu'elle était, et débarrassée de la souillure passée. Ceux qui voulaient obéir aux temps apostoliques descendaient dans l'eau. Et nous n'avons aucun exemple biblique nous permettant de croire que l'eau leur était en quelque sorte apportée. Leur résurrection suivait l'immersion dans l'eau. L'un n'était pas concevable sans l'autre. Disons qu'en matière de baptême, que tout ce qui n'amène pas le croyant repentant vers l'eau, qui ne le submerge pas, qui ne l'immerge pas et qui ne le fait pas ressortir de l'eau, n'est pas un baptême, selon l'exemple biblique. Mais quel est donc le but d'immerger ainsi un être qui croit et qui se repent? Tout simplement d'entrer en Christ conformément à ce que Paul dit aux Galates. Pour tous qui avaient été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Si on est baptisé, c'est pour obéir à Christ. Car on n'a pas obéi à tout ce qu'il a commandé tant qu'on n'est pas passé par les eaux du baptême. N'a-t-il pas ordonné à tous ses disciples, peu avant de repartir vers son Père, « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ceux qui n'ont pas été baptisés restent en dehors du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On n'a pas obéi au commandement de Dieu tant qu'on ne croit pas en Dieu, en Jésus, son Fils. On n'a pas obéi non plus tant qu'on ne se repent pas de ses péchés. Et le croyant qui se repent n'a pas encore non plus obéi à la volonté de son Dieu tant qu'il ne s'est pas fait baptiser pour la rémission de ses péchés. Le croyant est baptisé en Christ. Mais il est également dans le corps du Fils de Dieu. C'est ce que dit l'Épître aux Corinthiens. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Celui qui croit et qui s'est repenti doit donc être baptisé dans le corps. Mais ce corps est l'Église. Dieu a donné tout pouvoir à Jésus. Et l'Épître aux Éphésiens dit qu'il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Christ est la tête de ce corps qui constitue l'Église. Et la Bible nous dit qu'il a la tête du corps de l'Église. Le corps est l'Église et l'Église est le corps. Mais il ne faut surtout pas perdre de vue qu'il n'existe qu'un seul corps. 1 Corinthiens 12, 20, le dit bien, il y a plusieurs membres et un seul corps. Un seul baptême valable aux yeux de Dieu. Et l'eunuque dont nous avons parlé l'avait bien compris, c'est le baptême d'eau. Il demanda à l'évangéliste Philippe de le baptiser, celui-ci sentit aussitôt de sa foi. Et dès qu'il en fut pleinement persuadé, qu'ils pouvaient vraiment les baptiser, ils descendirent tous deux dans l'eau pour procéder à cet acte vital. De même, l'Esprit Saint dit à Pierre, pour qu'il enseigne à Corneille et les siens afin qu'ils reçoivent le baptême. Il leur apprit qu'il n'existait qu'un seul et unique baptême et qu'il s'agissait du baptême d'eau. De plus, Pierre leur démontra que le baptême ferait d'eux des membres du corps de Christ, de son Église. L'obéissance à Christ dans les eaux du baptême n'est pas étrangère au fait qu'on soit sauvé de ses péchés passés. Jésus affirma à tous ses apôtres réunis, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. » Il serait absolument inutile d'immerger un non-croyant dans l'eau car il n'est pas prêt à recevoir le baptême. Celui qui ne croit pas ne peut pas se repentir et encore moins confesser sa foi. Dès lors, le baptiser serait inutile et même blasphématoire. Au contraire, le croyant repentant, lui, veut être baptisé. Tant pour assurer le pardon définitif de ses péchés passés que pour être sauvé. Pierre dit tout d'abord à la foule assemblée autour de lui, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Jésus place, comme nous le voyons, le salut après le baptême. Telle est la volonté divine. Nul homme n'a l'autorité de dire qu'on peut être sauvé des péchés sans le baptême ou avant d'être baptisé dans l'eau pour la rémission de ses péchés. Jésus-Christ a passé le salut après le baptême. Et cela doit être ainsi. Nous avons vu qu'on est baptisé dans le corps de Christ, et nous avons également constaté que ce corps est l'Église. Par conséquent, lorsque quelqu'un est baptisé dans le corps, il devient membre de l'Église du Christ. Le Seigneur ajoutait à son Église ceux qui étaient sauvés. Mais celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Les sauvés seront ajoutés à l'Église. Mais Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. On ne peut donc entrer dans l'Église sans entrer dans le corps. Christ est le sauveur du corps, mais il ajoute également les sauvés à son Église. Le but du baptême d'eau est d'entrer en Christ, dans le corps de Christ, Église ou royaume, de se mettre sur le chemin qui conduit au ciel, d'entrer dans la vraie vigne du Seigneur, de passer la porte du salut, de donner accès aux croyants à la famille de Dieu, de le mettre en relation directe avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de le placer sous l'autorité et la direction de ce Christ auquel il a participé directement à la mort et à la résurrection. Je veux affirmer que la restauration du christianisme primitif ne dépend uniquement que des principes que nous avons énoncés au cours de ces trois émissions successives. Cette restauration doit et peut être basée sur un seul principe. Parler quand la Bible parle et se taire quand elle est elle-même silencieuse. Est-ce si difficile, si compliqué? Voulez-vous participer avec nous à ce retour, à cette marche vers l'origine?
Alléluia, alléluia, alléluia.
Programme de méditation biblique vous a été offert par Jacques Marchal, qui vous l'a présenté. Mais qui sommes-nous? Les chrétiens qui ne portent pas d'autres noms et ne sont attachés ni à une organisation centrale ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout et le Nouveau Testament, notre unique chef Jésus-Christ, seul ses enseignements et ceux des apôtres, notre autorité de nous. Parlons de ce que la Bible dit et nous devons faire en sorte à propos de ce qu'elle nous dit. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre et je vous répondrai personnellement. Le texte de cette émission est à votre disposition sans engagement. Écrivez à Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398, 31086, Toulouse CEDEX. Je répète, Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2300.